Vous écoutez, on lit pour vous.
Violence conjugale, la bonne nouvelle. Une chronique de Mylène Moisan, parue le 20 juin 2024 dans Le Soleil de Québec. J'aime bien cette légende urbaine, celle du professeur d'université à qui on refuse de rembourser un parapluie acheté lors d'une conférence à Paris. Le gars refait son allocation de dépenses en ajoutant un dollar ici, un dollar là. Il arrive au même montant. Il écrit en bas « Cherchez le parapluie ». C'était un peu ça qui se passait avant à la DPJ avec la violence conjugale. Elle était dissimulée à travers d'autres motifs de compromission, évalués comme un mauvais traitement psychologique ou un conflit de séparation. Résultat, des mères, parce que ce sont surtout des mères, était perçue comme la source du problème comme étant aliénante. On les tassait de la vie de leur enfant. J'écris à l'imparfait, même si, dans les faits, ça arrive encore trop souvent. Mais depuis un an, l'exposition à la violence conjugale est un motif de compromission en soi. On a isolé le parapluie. Et dans le bilan des DPJ du Québec rendu public récemment, il y a une bonne nouvelle qui a l'air d'une mauvaise. Les DPJ du Québec ont reçu tellement de signalements pour violence conjugale qu'ils en ont fait le thème central de leur 21e bilan. On note, tableaux à l'appui, qu'il y a 10 fois plus de signalements pour ça depuis 10 ans, ce qui ne devrait réjouir personne. Et pourtant, dans ces mêmes tableaux, on note depuis quelques années une diminution des signalements pour conflits de séparation dans une proportion presque équivalente à la hausse de la violence, comme s'ils étaient des vases communicants. Comme si, tranquillement, on venait gommer la confusion entre le conflit de séparation, le conflit de couple et la violence conjugale. Surtout, on reconnaît de plus en plus que la violence conjugale ne s'arrête pas quand le couple éclate, qu'elle est plus pernicieuse, parfois pire. C'est l'autre parapluie. Depuis que l'exposition à la violence conjugale est reconnue comme motif de compromission, des efforts de formation sont faits pour que les intervenantes arrivent à faire la différence entre un conflit de séparation et la violence conjugale post-séparation. Excusez, c'est long. Pour qu'elle décèle les bourreaux manipulateurs qui rejettent la faute sur la victime. La victime peut parfois être l'homme. Pour le moment, trop d'intervenantes n'ont pu avoir qu'une formation de 90 minutes en ligne, alors qu'il existe une formation de 4 jours beaucoup plus poussée. Dans les régions où on se fait encore tirer l'oreille, on plaide un trop gros taux de roulement, aussi la difficulté de libérer les troupes pour la recevoir. Espérons qu'on y arrive partout, bientôt. Parce que, comme le souligne le bilan des DPJ, déceler la violence conjugale, surtout après une séparation, est complexe. Aussi complexe qu'essentiel. En cas d'erreur, l'enfant risque d'être retiré à sa mère, de se retrouver dans un milieu neutre, en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, d'être obligé de renouer avec son père. Des enfants sont présentement retirés depuis des années parce qu'ils refusent toujours de voir un père violent. Dans le bilan des DPJ, au-delà des signalements pour violence conjugale compilés depuis des années, nous avons pour la première fois le nombre de ceux qui ont été retenus. Dans la capitale nationale, en 2023-2024, 546 ont été retenus contre 345 sur la rive sud, respectivement 14 % et 12 % des signalements. J'ai déjà hâte à l'année prochaine pour voir où on en sera. C'est peut-être, comme le dit la chanson, le début d'un temps nouveau. Celui où les enfants qui sont exposés à la violence conjugale seront reconnus comme tels, où ils pourront grandir avec le parent qui les a toujours protégés, plutôt que d'être faussement placés dans un conflit de séparation où les deux parents sont mis sur le même pied d'égalité. La route est encore longue. et il faudra un jour aussi regarder dans le rétroviseur pour s'occuper des enfants qui sont forcés de renouer avec des auteurs de violence, pour s'occuper des mères qu'on oblige à faire de la coparentalité avec leurs bourreaux. Il faudrait pouvoir trouver une façon de revoir les dossiers de conflits de séparation pour s'assurer qu'il ne s'agit pas, au fond, d'une dynamique de violence conjugale qui a échappé aux intervenantes. Il faut trouver comment rempoter ces enfants. C'était « Violence conjugale, la bonne nouvelle », une chronique de Mylène Moisan parue le 20 juin 2024 dans Le Soleil de Québec.
L'éducation va devoir s'accélérer, un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 22 juillet 2024 dans la presse. Moins d'un utilisateur de trottinette électrique sur 10 porte un casque dans la plupart des grandes villes du monde, dont Montréal, s'inquiète une étude s'intéressant de près aux causes de la forte délinquance de ce mode de transport. Ce qu'il faut savoir, les trottinettes électriques causent beaucoup d'accidents, mais le port du casque est très faible. Une étude appelle à accélérer la sensibilisation autour de ce mode de transport. Le SPVM a maintenant une équipe affectée à cette tâche. Toute la littérature nous démontre que 95% des gens qui font de la trottinette électrique ne portent pas de casque la plupart du temps, alors que c'est l'un des principaux facteurs de risque d'accident, explique le professeur Yvan Petit du département de génie mécanique de l'École de technologie supérieure, ETS. Comme professeur invité à l'Université Gustave Eiffel à Paris, il a mené récemment un projet de recherche sur la question de la sécurité liée à l'usage des trottinettes électriques qui cause de sérieux enjeux de cohabitation dans la ville lumière depuis des années déjà. Au Québec, la circulation des trottinettes électriques a été légalisée l'an dernier dans les rues où la vitesse maximale est de 50 km/h ou moins. Depuis, le bassin d'utilisateurs ne cesse de grandir. Plusieurs opérateurs en libre service comme Bird et Lime, sont de retour à Montréal, mais seulement au parc Jean-Drapeau pour le moment, après une expérience marquée par des enjeux de stationnement et des accidents en 2019, ce qui avait poussé la ville à abandonner son projet pilote. La recherche de l'équipe de M. Petit consistait à effectuer des tests de collision avec des mannequins avec des trottinettes allant de 10 à 35 km/h dans plusieurs conditions. Et les résultats sont parlants. D'abord, dans une bonne proportion, environ 20%, une collision implique des impacts à la tête, ce qui peut se révéler très dangereux et se transformer en traumatisme crânien, note le professeur. Il note également qu'environ un tiers des accidents implique un objet ou un nid de poule, un autre tiers un piéton ou un cycliste et un dernier tiers avec des automobilistes. On voit souvent des commotions cérébrales, mais aussitôt qu'on augmente la vitesse, on tombe dans des blessures vraiment plus importantes qui ont des dommages réels dans la vie des gens, souligne M. Petit. Sensibiliser, éduquer davantage la population? Selon lui, le temps est venu d'en faire plus, beaucoup plus, pour changer les comportements des utilisateurs. Il faut rendre les gens conscients du risque qu'ils courent. Je doute que plus de répression soit la solution, mais il existe plusieurs initiatives qu'on devrait élargir davantage, estime le chercheur. Ce dernier évoque notamment ce que fait la Ville de Montréal, qui organise des séances d'initiation à la trottinette électrique au planchodrome du parc Hantzik pendant la saison estivale. Ça permet en même temps de faire cette sensibilisation de façon très directe, mais aussi de fournir des casques. Ça me semble vraiment être la bonne avenue, soutient M. Petit à ce sujet. L'éducation va devoir s'accélérer, c'est certain. Sinon, on va faire face à encore plus d'accidents chaque année. L'enseignant n'est pas le seul à penser ainsi. Il y a quelques jours, l'Hôpital de Montréal pour enfants, HME, a lancé un appel à la prudence aux parents concernant l'usage de la trottinette électrique par leurs enfants. Au cours des 3 derniers mois, le centre de traumatologie de l'hôpital a soigné 7 patients ayant subi des blessures liées à ce type de trottinette. En 2022, 12 enfants avaient été soignés pour ce genre de blessures, 8 en 2023. L'année fait juste commencer. Je suis pas mal sûre qu'on va arriver peut-être à la 20aine cette année, a affirmé Glenn Case, chercheur en traumatologie au Centre de traumatologie de l'HME. On n'a pas fini d'en voir. Je crois que ça va aller en augmentant, a-t-il souligné. Plus de surveillance policière. Récemment, les trottinettes électriques ont par ailleurs fait leur entrée au service de police de la ville de Montréal, SPVM. Une équipe spéciale d'une 20aine de cadets se déplacera tout l'été en trottinette pour prévenir les risques d'accident. Avec la démocratisation de ce mode de transport, les gens en voient et s'en procurent de plus en plus, donc on voit que la cohabitation commence à être plus difficile. On veut vraiment sensibiliser tout le monde, affirme en entrevue le commandant en sécurité routière de la police de Montréal, Michel Lebrun. Tout l'été, une 20aine de jeunes policiers en formation sillonneront les rues de Montréal en trottinette électrique. On a acheté 12 appareils, donc on pense qu'ils seront 10 par jour, avec 2 policiers en accompagnement. Le but, ça va être de créer un lien privilégié avec les usagers, mais aussi avec l'ensemble des personnes vulnérables qui sont surreprésentées dans le bilan routier, note M. Lebrun. On voit souvent des usagers sans casque ou d'autres qui transportent un autre passager, qui ont des écouteurs, qui circulent sur le trottoir, qui sont sur leur téléphone. Ce genre de choses, c'est vraiment à proscrire, conclut le commandant. C'était « L'éducation va devoir s'accélérer », un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 22 juillet 2024 dans la presse.
Jeune femme, transparence salariale et TikTok. Un texte de Taylor Telford du Washington Post, paru le 13 juillet 2024 dans la presse. Jessica Rosales, 29 ans, pratique la transparence salariale. Pour bien des gens, parler de son salaire est tabou, presque un secret, dit-elle. Mais pas pour elle, ni pour celles qui la suivent sur TikTok. Femme de ménage dans un hôpital du Michigan, Mme Rosales publie des vidéos sur sa vie, y compris sur ses finances personnelles. À la fin de chaque mois, elle se connecte sur TikTok et retrace ce à quoi chaque dollar de sa paye a servi. Carte de crédit, épicerie, prêt hypothécaire, électricité, etc. Elle fait ça à la caméra, sur une jolie feuille de calcul budgétaire de son CRU. Madame Rosales fait partie d'une tendance récente, ces travailleurs, beaucoup de jeunes femmes, en fait, qui brisent le tabou du salaire. Leurs vidéos, jour de paye, sont accessibles et détaillées et décortiquent leur budget hebdomadaire au dollar près. Les générations précédentes considèrent l'argent comme un sujet personnel, mais certains jeunes mettent en ligne tout ce qui concerne le travail, du trajet en métro jusqu'à l'appel vidéo leur annonçant leur licenciement. Alors, pour les jeunes, parler franchement d'argent semble naturel et nécessaire, explique Christy Nguyen, 23 ans, qui parle de finances personnelles sur TikTok. Il y a une grande ouverture sur les médias sociaux dans notre génération, explique-t-elle. En étant franc et en montrant nos vulnérabilités, on peut faire une différence dans la vie d'autrui. Cette évolution s'imbrique dans une tendance plus large, puisque des lois sur la transparence salariale dans plusieurs États obligent désormais les entreprises à indiquer les fourchettes de salaire prévues dans leurs offres d'emploi. De toute façon, de plus en plus d'offres d'emploi comportent des fourchettes de salaire, rapportent les sites d'emploi ZipRecruiter, Indeed et LinkedIn. Bien des entreprises se font clair sur les salaires, même si elles n'y sont pas obligées. Selon les militants pour les droits des employés, divulguer les salaires permet aux travailleurs de mieux négocier leur rémunération. Cela étant, certains employeurs contournent la réglementation en affichant des postes avec des fourchettes de salaire indûment larges. Selon Andrea Johnson de la National Women's Law Center, tous ces facteurs se conjuguent en une révolution de la transparence salariale et on approche d'un point de bascule. La génération Z dit « On ne va même pas postuler si le salaire n'est pas dans l'offre d'emploi. On s'en va vers ça et les employeurs s'en rendent compte. » Des règles du jeu plus équitables. Madame Nguyen travaille dans un supermarché à bas prix et est aussi agente de sécurité. Selon elle, les jeunes cherchent des conseils financiers sur TikTok, entre autres, par manque de littératie financière. Ces vidéos ont des titres comme « J'ai 23 ans, je vaux 150 000 $ Voici exactement ce que j'ai. » Et « J'ai budgété 11 282 $ pour le mois d'avril grâce à mes 3 emplois. » Elle reçoit une tonne de commentaires la remerciant de son honnêteté et lui posant toutes sortes de questions. Obtenir la transparence salariale est moins facile que l'offrir, a découvert Mme Nguyen. Quand elle a demandé à sa supérieure combien elle gagnait pour savoir ce qu'elle pouvait espérer en gravissant les échelons, le refus a été net et sec. « Ça n'a aucune importance ce que je gagne. » Madame Nguyen a été un peu secouée, mais pas totalement surprise. Selon Ellen Ernst Kosek, professeur de gestion à l'Université Purdue, la pudeur au sujet du salaire est l'héritage d'anciennes méthodes de gestion qui avantageaient les employeurs au détriment des salariés. C'est un facteur parmi d'autres qui a mené à l'inégalité salariale envers les employés, surtout les mères, note Mme Kosek au passage. Mme Kosek souligne que les jeunes d'aujourd'hui ont reçu une moins bonne éducation financière que les générations précédentes. Ils sont assez mal préparés à bien gérer leur argent. Bien des parents n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants à ce sujet, a déclaré Mme Kosek, qui est membre de l'Academy of Management. D'après moi, cette génération autodidacte est en train de combler cette lacune. Parler d'argent, c'est payant. En sortant de l'université, Anna Thompson a été engagée comme coordonnatrice de recherche clinique dans une clinique de gastro-entérologie. Elle n'a pas négocié son salaire. « Je le regrette encore aujourd'hui », dit-elle. En discutant avec un collègue, elle a appris qu'elle était payée 10 000 $ de moins qu'une autre personne occupant le même poste. Sa frustration a fait d'elle une adepte de la transparence salariale. Madame Thompson, 25 ans, qui travaille aujourd'hui en marketing chez General Mills, canalise cette passion sur TikTok où elle parle budget, épargne et investissement. Elle constate qu'elle n'est pas la seule à être intimidée à l'idée de négocier un salaire plus élevé ou de faire des plans financiers à long terme. Elle s'emploie à traiter de ces sujets franchement à partir de sa propre expérience. À 25 ans, j'ai un actif net à 6 chiffres. J'y suis parvenue en investissant tôt et en vivant en dessous de mes moyens, affirme Anna Thompson. Presque tout le contenu TikTok sur la transparence salariale vient de gens qui gagnent entre 70 000 et 130 000 $, estime Mme Thompson. Elle souhaiterait entendre le point de vue de salariés ayant des revenus plus variés. Plus on parle d'argent, pas juste au travail, en famille et avec les amis aussi, plus le sujet devient naturel et facile, a déclaré Mme Thompson. Repartir à zéro. Au terme d'un mariage malheureux, Tiffany Morrison s'est retrouvée à élever seule ses deux enfants et avec très peu de compétences pour gérer son argent. « J'en ai vraiment arraché », dit-elle. Mais elle est tombée sur The Budget Mom, un TikTok de conseils financiers tenu par une mère au travail, comme elle, qui rebâtissait sa vie après avoir croulé sous les dettes. Madame Morrison a vu dans cette démarche une façon de s'en sortir. Madame Morrison, 37 ans, documente en ligne son parcours financier. Objectif numéro 1, épargner 5 000 $. On la voit scruter les prix chez Walmart, décomposer au dollar près ce qu'elle fait avec chaque paye, elle est technicienne en immobilier, et établir son budget mensuel. À ses débuts sur TikTok, Mme Morrison n'a pas vu beaucoup d'autres personnes dans sa tranche de revenus parlant ouvertement d'argent. Ce qu'elle voyait la motivait, mais il lui manquait le contact et le partage avec des gens dans sa situation. Depuis, elle en a trouvé grâce à ses vidéos. Elle s'est liée avec des femmes qui l'ont contactée et remerciée de sa franchise sur sa réalité de mère seule au budget serré. Elles peuvent parler d'argent librement, se comprendre et s'entraider, dit-elle. Avant, je ne connaissais personne pour qui ce sujet n'était pas tabou, dit Mme Morrison. Mais maintenant, j'ai l'impression que nous vivons une époque différente. C'était Jeune femme, transparence salariale et TikTok. Un texte de Taylor Telford du Washington Post, paru le 13 juillet 2024 dans La Presse.
Ces pays où vous ne pouvez pas appeler votre enfant comme vous le voulez. Un texte de Marine Sestez, paru le 7 août 2024 dans Ça m'intéresse. Choisir un prénom pour son enfant est un acte symbolique et significatif pour de nombreux parents. Néanmoins, dans certains pays, ce choix est strictement réglementé et certains prénoms restent interdits. Explication. Un prénom porte des significations profondes, souvent héritées des cultures, des traditions et des croyances religieuses. Historiquement, les prénoms servaient souvent à honorer des ancêtres, des saints ou des héros mythologiques. En choisissant un prénom, les parents cherchent souvent à transmettre des valeurs, à se conformer à des attentes sociales ou bien encore à marquer l'identité culturelle et l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, un prénom peut influencer la perception sociale et le destin d'une personne. Dans de nombreux pays, des lois ont ainsi été mises en place pour assurer que les prénoms respectent certaines normes, et ce,
afin d'éviter des situations potentiellement embarrassantes ou discriminatoires pour l'enfant. Quels sont les prénoms interdits ou refusés dans le monde et en France? Dans plusieurs pays, des autorités veillent à la conformité des prénoms avec des critères précis. En France, par exemple, un prénom peut être refusé s'il est jugé contraire à l'intérêt de l'enfant ou s'il risque de provoquer des moqueries. Le prénom Nutella, que des parents ont voulu donner à leur fille en 2015, a ainsi été rejeté par la justice, qui a jugé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de porter le nom d'une marque de pâte à tartiner. Autre exemple, l'Islande, où les prénoms choisis ont l'obligation d'être conformes à la langue et à la tradition islandaise. Les parents doivent ainsi choisir parmi une liste préapprouvée ou soumettre leur choix au comité des noms. Quels sont les deux prénoms interdits en Allemagne? L'Allemagne est aussi connue pour ses règles strictes en matière de prénoms. L'objectif est de protéger l'enfant de tout inconfort lié à un prénom inapproprié. Deux exemples notables de prénoms interdits en Allemagne sont Adolf et Oussama. Ces interdictions s'expliquent bien sûr par les connotations historiques et politiques négatives associées à ces noms. Par ailleurs, outre ces deux prénoms, les autorités allemandes veillent à ce que les prénoms donnés ne soient ni offensants ni problématiques et qu'ils respectent la dignité de l'enfant. Toute demande de prénom est donc évaluée par les services de l'état civil et les parents doivent justifier leur choix si celui-ci sort de l'ordinaire. Prénom refusé. Star Wars ou Harry Potter. L'univers de Star Wars et de Harry Potter a une influence considérable sur la culture populaire mondiale et certains parents nomment leur enfant d'après des personnages de la saga. Pourtant, en Finlande, les parents ne peuvent plus appeler leur enfant Voldemort ou Padmé. Dans la saga Harry Potter, Voldemort est souvent associé au mal et à la tyrannie, et Padmé reste une figure influente de Star Wars. Même si ces noms sont tirés de la fiction, les autorités finlandaises estiment qu'ils pourraient véhiculer des valeurs ou des comportements indésirables. D'autres prénoms issus de mondes fictifs ne sont pas encore explicitement interdits en Finlande, mais il est possible que le gouvernement mette à jour cette liste pour inclure encore d'autres références. C'était « Ces pays où vous ne pouvez pas appeler votre enfant comme vous le voulez », un texte de Marine Sestez, paru le 7 août 2024 dans « Ça m'intéresse ».